Actu SF, les podcasts.
Ben, bonjour à tous, merci d'être là. On va essayer de partir sur les traces de Darwin. On ne va pas faire quelque chose d'exhaustif, on va faire à travers une bande dessinée qui a été réalisée par les deux personnes qui sont à côté de moi, Fabien Groslot, qui est le scénariste de cette BD, mais qui est aussi dessinateur, et Rémi Royer, qui est le dessinateur de la bande dessinée. Donc, sur les traces de Darwin, les auteurs ont décidé de faire un récit de voyage. Et ce récit de voyage, on va suivre les différentes étapes de ce voyage que Darwin a fait au 19e siècle et qui lui a permis, après ça, de réfléchir et de penser sa théorie de l'évolution des espèces. Voilà. Donc déjà, vous deux, je vous demandais pourquoi faire quelque chose de ce personnage de Darwin, faire un récit avec ce personnage.
Alors, je ne sais pas si les diapos fonctionnent, on verra. Je vais essayer de remonter à deux choses moi qui m'ont fait partir sur ce sujet. C'est-à-dire que la première chose, ça va être la première BD qu'on a fait tous les deux, qui s'appelait Audubon, sur les ailes du monde Audubon, donc qui était publiée chez Dargaud également. Et puis là-dedans, on s'était rendu compte que donc Audubon, qui est un peintre nantais, donc pour les gens de Nantes, ça, peut-être que ça leur parle. Tiens, voilà. Est-ce qu'on voit la planche là?
Je sais pas trop.
Je sais pas. Nous, l'écran, on l'a pas. Hein.
Non, vous l'avez pas?
Non, alors, vous l'avez pas là.
On va attendre que ça revienne.
On va attendre que l'écran. Ouais. D'accord. Bon, on va meubler en attendant. Donc oui, au début, avant Darwin, il y a eu Audubon.
Voilà.
On a commencé par là. Donc vous aviez fait un récit du voyage d'Audubon quand il avait fait toute sa nomenclature des oiseaux d'Amérique du Nord.
Voilà, c'est ça. Et Audubon faisait le tour des universités anglaises et donc à Édimbourg, en Écosse. Il s'est raconté dans le journal de Darwin, il y avait comme étudiant le jeune Charles Darwin qui a vu les peintures d'Audubon. Donc moi, j'avais dans le premier bouquin, j'avais un peu imaginé une rencontre entre le peintre Audubon et Charles Darwin. Alors, je me suis dit, mais en fait, Darwin, on le voit comme un vieux savant avec sa grosse barbe et son crâne chauve, mais il a été jeune avant et puis il a été un petit peu aventuré. Alors, on en reparlera, mais un aventurier un peu particulier parce que, pas d'une grande force physique, on va dire. Et puis, je me suis rendu compte. Ça y est, c'est l'écran.
Voilà, ouais. on a la planche là où il y a la rencontre entre les deux.
Donc Darwin et Audubon qui se parlent lors d'une rencontre probablement à l'université d'Édimbourg. Et donc j'avais trouvé le personnage de Darwin en fait beaucoup plus complexe et plus intéressant que les images qu'on en avait en fait du vieux barbu grisonnant. Alors ça fait pas de nous des spécialistes de Darwin du tout, mais moi, je trouvais que comme personnage, il était intéressant. Et il y avait une deuxième chose, moi, si je retrouve, voilà, c'est ça, qui m'avait beaucoup parlé. C'est qu'en fait, on a retrouvé dans des archives, sur les notes de la théorie des espèces, des dessins de ses enfants. C'est-à-dire que Darwin, une fois qu'il avait fini sa page, il donnait les pages blanches à ses enfants, qui derrière faisaient des dessins de cavalerie, qui faisaient comme ça des grosses scènes de bataille. J'avais trouvé ça extrêmement émouvant de voir ce personnage qu'on connaissait tous. Vous voyez, ça, c'est son fils Horace Darwin qui a fait un beau blason sur les livres sacrés de son père. Et ben, je trouvais ça émouvant d'avoir ce personnage à la fois peut-être le scientifique le plus connu du monde et un papa. Donc, voilà.
Il a été un papa aussi à une époque. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et moi, ça m'avait touché et je me suis dit, on va se lancer dans l'écriture.
Et quand vous commencez le livre, ça commence par, on est dans la maison de Darwin et puis sa femme s'en va. Puis il a dit à Darwin, tu vas t'occuper des enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va leur raconter son voyage sous forme de conte. Voilà, ses enfants, il va les prendre sur ses genoux et puis il va raconter le voyage. Quoi.
Voilà, exactement.
Ouais. Donc, alors, maintenant, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble sur Audubon et Darwin, finalement? Parce que Audubon, ça avait été quelque chose, ça avait super bien marché. Enfin, au niveau de la réalisation et puis le succès. Et puis, maintenant, donc, pourquoi avez-vous décidé de travailler ensemble pour réaliser ce type d'ouvrage? Toi, Jérémy, sur un plan dessin, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce type de projet?
Alors, faut savoir que
Moi, je suis allé chercher Fabien à l'époque d'Audubon, en fait. Je cherchais un scénariste, tout simplement. Et on avait un ami en commun avec Fabien. Et je savais qu'il écrivait des scénarios, etc. Donc, je lui ai demandé, en fait, tout simplement à Fabien s'il voulait bien m'écrire une histoire. Et après, on a convenu d'Audubon, etc. Et on a voulu continuer l'aventure ensemble, justement, sur Darwin. Et on est parti là-dessus, comme Fabien l'a expliqué. Et moi, je sais qu'on a un lien assez fort avec Fabien, c'est qu'on veut parler de la même chose. On veut parler de la nature, de l'aventure. Il y a un petit fond écologique derrière. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Et moi, c'est ce que j'aime raconter, c'est ce que j'aime dessiner. Donc, je pense que la collaboration, elle s'est faite aussi simplement. Et c'était évident, en tout cas.
En fait, Jérémy, quand on lui propose des scènes d'intérieur où on a deux personnages qui parlent devant un mur... deux tables et une chaise, il a du mal, quoi. Il n'aime pas du tout, alors qu'il est très très fort pour dessiner les paysages, pour dessiner la nature, et on se retrouverait là-dessus, quoi. Donc Audubon, ça partait de là, mais avec le voyage de Darwin, nous, ce qu'on voulait montrer, c'était un espèce de montrer la beauté de la nature dans tous les pays que Darwin allait traverser, montrer toutes les espèces qu'il allait découvrir, etc. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a... je vous ai dit, avec les dessins, avec le côté anti-esclavagiste de Darwin, il y avait tout un tas de choses qui faisaient référence en moi chez ce personnage. Donc on s'est dit, on va faire un tour du monde à travers le voyage de Darwin. Voilà.
Et essayer de comprendre à travers ce voyage les découvertes qu'il va faire, d'où va venir finalement sa réflexion par la suite et qui va aboutir à la théorie sur les espèces. Donc voilà, donc, votre récit commence sur, on va le voir en image. Hein. Voilà, donc là on va passer, ça c'est, tu vas nous montrer, vas-y, sur la carte. Voilà. Alors, le voyage de Darwin, quand même, il est quand même assez long. Il va durer à peu près 2 ans, hein, si je me souviens bien.
Non, 5 ans.
Cinq ans, pardon, excuse-moi. Donc, et voilà, il part de Plymouth. Voilà, et donc, il va faire pratiquement le tour du monde.
Oui, il va faire le tour du monde. En fait, à la base, le Darwin est embauché, on va dire, et engagé comme... comme homme de compagnie pour le capitaine Fitzroy, qui est un personnage très intéressant, c'est-à-dire que c'est à la fois un catholique un peu à l'ancienne, mais également un homme qui est très intéressé par la science. Donc, il voulait avoir à son bord quelqu'un avec qui il pourrait échanger, discuter. Il avait une grande bibliothèque à bord du Beagle, et dans lequel il lisait des bouquins pendant qu'il faisait le tour. Le Beagle, il part en 1831. Pour répertorier les côtes en fait d'Amérique du Sud, c'est vraiment un voyage géographique à la base. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont tracer les côtes, tracer les rivières, etc. Surtout dans la partie sud, donc en Patagonie de l'Amérique. Et puis Darwin est là petit à petit, un peu comme un, je sais pas comment dire ça, mais vraiment comme un curieux, et il va prendre vraiment ça à bras le corps. En répertoriant, en étant vraiment surpris par la quantité d'espèces qu'il va découvrir, par la beauté des paysages, par il va découvrir des fossiles, il va découvrir des espèces inimaginables pour lui. Donc voilà, petit à petit, il va monter en puissance, on va dire, dans son rôle de scientifique.
Et puis dans son rôle un peu Darwin, enfin dans la BD, il a un rôle un peu ingénieux, un peu naïf quand même. Parce qu'il lui arrive peut-être des aventures, des petites anecdotes, qui pimentent un peu le récit, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire
tu le traites un petit peu à la Tintin par moment, quand même.
Ouais, c'est pour ça que je mets cette page-là, là. Voilà. Vous voyez où Darwin il embarque et je lui fais tomber une caisse dessus. Voilà. Parce que ça, pour les amateurs de Tintin, il y a ça dans, je sais même plus, c'est dans le crabe aux pinces d'or.
Le crabe aux pinces, ouais, c'est ça, la caisse qui tombe où les boîtes
qui manquent de tuer Tintin. Et en fait, Darwin, au début, c'était vraiment un étudiant qui chassait. Qui passait du bon temps, on va dire, mais qui n'avait pas réellement de plan de carrière. C'est vraiment à bord de ce voyage de 5 ans qu'il va découvrir qu'il est naturaliste dans l'âme, quoi.
Il va se prendre naturaliste. En plus, il avait une formation de paléontologue avant ou pas ?
Non, juste avant de partir, il devait devenir pasteur, en fait, même carrément.
D'accord.
Et pas forcément être scientifique. Hein.
Donc, il va partir en bateau. Là, on voit quand même dans le travail de Jérémy sur le dessin, parce que le bateau, quand même, il n'est pas stylisé. Hein, il est assez bien reconstitué. Les côtes aussi, le ciel. Alors, donc, cette histoire... toi, Jérémy, ton rôle, ça a été de mettre en scène le scénario que te donne Fabien et de le travailler, de présenter ça, de le mettre en scène et de faire les couleurs.
Ça a été la plus grosse partie... Ça a été difficile parce que je ne suis pas un dessinateur de bateaux du tout. Donc, je sais qu'il y a des passionnés de bateaux, etc. Donc, en plus, c'est une part importante dans le récit, le Beagle. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais j'ai dû me documenter la plupart du temps sur Internet. Fabien me fournit souvent des images pour me documenter aussi. Là, voilà, c'est la façon dont on travaille avec Fabien, par exemple. Donc, on imagine.
Je vais parler de ma planche, puis après, tu parles de.
Ok.
Vous voyez, moi, en fait, je découpe tout le livre, toute la bande dessinée, et puis je dialogue comme ça, mais souvent, bon, celle-là, elle n'est pas très représentative, mais avec des bonhommes patates. C'est-à-dire, vous voyez, les zones blanches que j'ai mis dans mes cases, là, en fait, c'est des personnages, ça.
C'est les silhouettes.
Et puis, moi, je lui fournis ça. Alors, les photos, je mets des photos parce que ça permet d'intégrer la doc, en fait, montrer à peu près l'esprit que je veux. Et celle-là, je voulais montrer particulièrement parce que ben, je dessine tellement mal. Enfin, je fais exprès hein, de dessiner mal quand même dans mes découpages que Jérémy ne m'a pas compris, en fait. Et il va vous expliquer comment il ne m'a pas compris. Moi, là, dans cette scène, c'était trois grandes cases où Darwin avançait péniblement dans la jungle. Donc, on voit Darwin sur la première case, tout petit en blanc. C'est une grosse tache blanche assez moche. Il avance et il est de plus en plus proche. D'accord ? Et maintenant, parce qu'on était pressé, j'ai même pas mis de notes, le pauvre, il n'a pas compris ce que j'ai voulu lui dire. Et on va vous montrer que c'est mieux, en fait, ce qu'il a fait. Mais là, je te passe la parole.
En fait, la façon dont Fabien m'envoie les pages, c'est qu'il m'envoie d'abord, c'est la façon de découper de Fabien. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a d'abord le scénariste qui envoie des textes, et juste des textes, et c'est au dessinateur, justement, de découper de cette façon, d'interpréter, etc. Mais il y a aussi des scénaristes, ils sont très peu, à faire comme Fabien, c'est-à-dire à découper directement la page et ensuite voilà, le dessinateur améliore un peu, en tout cas essaye d'améliorer et fait en sorte de comprendre son découpage. En tout cas, là, j'ai essayé de comprendre et en fait, moi, comme j'avais vu la petite case en haut avec les singes, je me suis dit, tiens, en fait, il y a Darwin qui est en train d'avancer, qui est en train de regarder les singes. Et en fait, il y avait... une sorte d'idée qui m'était venue, c'était que alors, l'homme ne descend pas du singe par rapport à la théorie de l'évolution. L'homme est un cousin du singe. Enfin, voilà,
ils sont en parallèle, quoi.
Oui, c'est ce qu'on parle après, justement, il y a avec la caricature de Darwin avec le corps du singe et la tête de Darwin. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, moi, ça m'avait semblé... plus pertinent que justement on voit le singe qui commence à descendre et que ça suive une sorte de ligne et que justement Darwin apparaisse alors que c'était juste trois singes, c'est ça ? Non, juste Darwin.
Non, c'était juste Darwin qui se promenait et toi t'en as résumé en trois cases la théorie de l'évolution.
Si, ouais, voilà, Darwin descend du singe, quoi.
Darwin descend du singe. Voilà, on l'a fait en BD.
Donc voilà. Ouais. Et ça m'arrive souvent avec ces bonhommes patates de pas toujours comprendre, donc on essaie de voilà. Donc ça c'est l'étape suivante. Donc là c'est un brouillon plus ou moins propre. Je crois qu'il manque une étape, mais c'est pas. Oui, il manque. Oh, wow. Une. En fait, après il y a une étape qui est au propre avec le dessin vraiment au crayon bien fait. Je scanne ma page et ensuite je mets la couleur. La couleur apparaît pas toute seule comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, ça devient ça.
Non. Alors, est-ce qu'on peut remarquer dans quand on fait du récit en bande dessinée comme ça et du récit soit historique, soit avec une connotation scientifique, ce qui est quand même un exercice assez particulier, c'est que là, comme on est dans la jungle, comme on est dans l'histoire, il y a une importance considérable du travail sur les couleurs. parce que les couleurs amènent tout ce qui est contraste, tout ce qui est, et tout ce qui est reproduction et qui comment dire, certifie à peu près l'époque ou certifie l'endroit où se passe l'action, quoi. Donc là, toi, Jérémy, tes couleurs, là, comment tu les as travaillées? Parce que quand on a vu la première page de Fabien, on a vu plein de verts, mais toi, tu les as nuancés, tu as apporté quelque chose. Tu ne pouvais pas reproduire ça à l'identique. Non, là, autrement, tu aurais fait un Photoshop et tout
bête. Voilà, c'est ça, où j'aurais collé la photo directement. Voilà. Il n'y avait pas de souci. Non, mais en fait, je dois penser en bande dessinée et il faut qu'il y ait une lisibilité. Par rapport à mon dessin aussi, je serais capable de recopier la forêt, la photo que j'ai vue, mais ça prendrait déjà trop de temps et en plus de ça, ce ne serait pas intéressant. Je suis obligé un peu de styliser, on va dire, hier j'avais une conférence sur la vulgarisation, donc je suis obligé un peu de vulgariser pour être un peu plus précis sur ce que je fais et que ce soit plus simple à regarder. Et en tout cas, j'essaie de trouver un ensemble de couleurs, une ambiance. Là par exemple, on est dans les mers vers Tahiti. Oui, je crois que c'est les îles de Polynésie. Donc, il y a vraiment une ambiance un peu plus claire, un peu plus bleue, chaleureuse, alors que là, tout à l'heure, on était vraiment dans la forêt sombre, etc. Donc, j'essaie toujours d'imaginer l'ambiance, de trouver un moyen qu'on se retrouve à l'endroit où est Darwin, où est le personnage, où sont les protagonistes. Donc, voilà. Là... je sais pas, non, c'est pas le mont Darwin, mais en tout cas ils sont près du Cap Horn, voilà,
ouais, à la pointe, ouais. Donc ouais, là on voit vraiment ton travail sur les couleurs, c'est important parce que je crois que pour faire un récit de voyage, justement, c'est important de vraiment travailler les couleurs. On voit tous les auteurs qui font de la bande dessinée, on va parler de Bourgeon et d'autres, ils ont toujours, quand on voit leurs planches noir et blanc, elles sont toujours très simples, et c'est souvent la couleur qui amène tous les volumes dedans. Ouais. Donc maintenant, on va revenir à la vie de Darwin. Donc, il va être sur ce bateau, sur ce Beagle, et sur ce Beagle qui va d'étape en étape, donc il va découvrir beaucoup de choses. Donc là, bon, là, on est au départ, la rencontre avec... voilà. Voilà ce que... Ce sont les documents à partir desquels vous avez travaillé pour imaginer et pour mettre en scène ce récit. Parce que ce n'est pas un récit vrai point par point. C'est un récit qui est quand même mis en scène et mis en fiction par le scénariste.
Ben oui, parce que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, le Darwin a fait le tour du monde avec le Beagle, mais souvent en faisant des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils vont faire Montevideo, la Patagonie, Montevideo. Bon, bref, c'est un voyage extrêmement complexe qui a duré 5 ans avec plein d'allers-retours, etc. Donc, dans un texte, ben, on peut apporter beaucoup de détails. Dans une bande dessinée, on est obligé d'aller au cœur des choses. Donc, par exemple, on va être obligé de regrouper différents voyages, différentes étapes. Je sais qu'il a fait une première partie chez les gauchos d'Argentine, un peu plus tard une autre. Ben ça, on va regrouper tous ces épisodes pour en faire un seul épisode. L'idée, ça va être de construire comme ça. Donc effectivement, on ne va pas être vraiment proche du texte de Darwin, mais on va construire des scènes, construire des épisodes pour raconter une aventure, en fait, un voyage, j'espère, qui est intéressant pour le lecteur. Donc, choisir des épisodes, les mettre les uns avec les autres. Le texte est là, le voyage de Darwin est là pour ceux qui sont intéressés d'aller plus dans le détail. Mais nous, on fait une bande dessinée, donc quelque chose qui est différent d'un livre écrit. La bande dessinée a des défauts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans énormément de détails, sinon ça prend tout de suite 500 pages, mais elle a des forces que d'autres médias n'ont pas. Comme vous avez vu là tout à l'heure, la montagne, le glacier de Jérémy, mais quand on sort une pleine page comme ça de montagne, paf, tout de suite on crée une ambiance, on crée un paysage, vraiment un style, quoi. Alors ici, ce qu'on a commencé à montrer, c'est les illustrations qui ont été faites par les différents peintres du Beagle, parce qu'il y avait aussi des peintres, il y avait des illustrateurs avec. Il y avait, donc là, je crois que c'est de Conrad Martens, et qui accompagne l'édition, la première édition du journal de Darwin. Donc sa rencontre avec les Indiens, je ne sais pas si on en parlera ou pas de cela. Et puis vous voyez là, c'est au Brésil, c'est le Corcovado, je crois, de mémoire. Voilà, je suis revenu. Donc moi, quand je travaille, j'ai tout un tas de documentation comme ça. Vous voyez là, une scène de vie à bord du Beagle. Et puis on a les écrits de Darwin, mais on a aussi les visuels qui accompagnent le voyage. Donc c'est à nous de créer une histoire. Là, je suis revenu sur les dessins de Darwin. Donc on a toute une iconographie qu'on utilise ou pas, et puis pour permettre... moi, l'idée, quand j'ai écrit ce bouquin, c'était de faire un peu un roman à l'ancienne. Je ne sais plus, il y a un moment, je vais revenir en arrière, c'est un peu décousu, mais ce n'est pas très grave. Vous voyez ici, voilà, le bouquin, on met des grands chapitres, étape 4, quand Darwin approche les îles des Galapagos. Vous voyez, on a essayé de construire la BD comme un roman du 19e siècle. Au début, je fais une référence à Jules Verne, mais c'est vraiment ça. C'est mettre en chapitre les grandes étapes du voyage.
Ouais, non, vous avez découpé le livre en chapitres en fonction des voyages et des périodes.
Comme un roman d'aventure.
Et chaque chapitre est sur une zone géographique précise, quoi. Et dans chaque chapitre, vous expliquez aussi dans cette zone-là qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va l'intriguer. Par exemple, il y en a dans un endroit, ça va être la géologie. Dans un autre endroit, ça va être peut-être, quand on voyait tout à l'heure les quatre, c'est vers la fin, mais les pinsons là, les becs de pinsons.
Ouais. Quand on voyait ça, plutôt le dessin, voilà ça.
Voilà, c'est ça. Donc là, Darwin, un peintre va reproduire quatre fois le même oiseau, mais avec quatre becs différents. Et c'est ça, et c'est ce type de dessin, ce type de découverte, comme quand on est dans une découverte géologique et qu'il voit des strates différentes strates sur un lieu, il se dit, mais ça s'est pas fait tout seul. Il se dit, les pinsons, il y en a quatre, ils ont tous des différences. Il commence à réfléchir tout doucement, à se dire que quand la théorie des créationnistes qui dit que la Terre a été créée en un jour et elle a toujours été pareille, lui, Darwin, dans sa tête, commence à cheminer quelque chose, quoi. C'est à partir de ce type de dessin qu'il évolue. Et il pense aussi à un scientifique qui s'appelle Lamarck, à un moment il va le rejoindre, qui avait commencé à parler que la Terre, il y avait une évolution, quoi.
Je sais pas, il y a peut-être des scientifiques experts en Darwin dans la salle qui m'excuseront si je dis des bêtises. Mais en gros, c'était ça. Ouais. Quand Darwin parle, officiellement, l'âge de la Terre est l'âge biblique, en fait, donc quelques milliers d'années. Et puis, il y a déjà des théories géologiques, il y a déjà qui disent, attention, peut-être que la Terre est beaucoup, beaucoup plus vieille que ça. Alors Darwin, il va se promener, il va voir des choses. Là, les fameux pinsons de Darwin qui découvrent dans les îles Galapagos, il découvre qu'il y a différentes espèces de pinsons qui ont des becs différents en fonction des îles des Galapagos où ils se trouvent. Donc et le gros bec, par exemple, peut-être que ça va être pratique pour casser des noix, par exemple. Ou le bec plus fin, ça va être pratique pour percer les cactus. Donc, en se disant, c'est bizarre, la même espèce sur un petit territoire a petit à petit, évolué pour devenir quatre espèces différentes, quoi.
Ouais, avoir quatre formes différentes en fonction. Voilà. C'est le même animal au départ, mais qui s'est adapté en fonction de son habitat et qui s'est dit, il y en a un qui va, comme tu disais, qui va casser des noix et l'autre qui va, celui qui a le bec beaucoup plus fin, il va peut-être attaquer que des cerises. Je sais pas.
Donc, exactement. Petit à petit. Il accumule des informations. Il dit, c'est pas possible. On peut pas avoir des couches de coquillages au-dessus, comme ça, à 30, 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. On peut pas avoir différentes espèces d'oiseaux, visiblement cousines, mais très différentes. Et il se dit, il y a quelque chose que la théorie biblique ne prend pas en compte, c'est le temps. Donc il réfléchit au temps, il réfléchit à tout un tas de choses comme ça. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Vous voyez, là, c'est la façon dont on a mis en scène dans la BD les réflexions que Darwin avait sur papier. Donc, les dessins géologiques, les dessins des fameux pinsons des Galapagos. Et puis, ils réfléchissent. Donc, pendant ce voyage à bord du Beagle, c'est vraiment là que le jeune Darwin va expérimenter et penser à sa théorie. Après, quand il va rentrer à la maison, il va mettre des dizaines d'années à l'écrire, sa théorie, mais les bases sont là pendant ce voyage.
Ouais, c'est son voyage qui lui donne les bases, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, au fur et à mesure de ça, Darwin aussi, il lui arrive des aventures parce qu'il est malade en bateau. Ça, c'est le côté un peu comique et Tintin, non ? Ou c'est vrai ?
Non, ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il sort de Plymouth, il a le mal de mer pendant 3 ans, quoi. Et en fait, le voyage du Beagle, il y a énormément de périodes où il est à terre parce qu'il évitait. C'est-à-dire qu'il disait, je vais plutôt y aller en cheval. Moi, si on va à Buenos Aires, je vais plutôt y aller en cheval. Et puis, en fait, sur les 5 ans, entre guillemets, à bord du Beagle, il en a passé énormément à terre à cause de son de son mal de mer, quoi. Mais il était aussi tachycarde, il avait des problèmes de vertige. Ouais, toute sa vie, il va être malade un peu, quoi.
Il a failli ne pas partir, finalement.
Il a failli pas partir, parce que il était fragile du cœur. Ouais. Mais c'est pas grave, il s'est accroché et puis il a fait son voyage, quoi. Mais après ce premier et unique voyage, il reste chez lui à écrire ses théories, quoi. Pendant 5 ans, il a accumulé des données et après, il va rester chez lui.
Alors aussi, pendant ce voyage, Darwin recueille aussi des éléments, comment dire, des éléments concrets, des cailloux, différentes choses, des animaux, des choses comme ça qu'il va envoyer en Angleterre pour les faire analyser par les sociétés scientifiques qui vont le voyager. Est-ce qu'il y aura une communication réellement entre les sociétés scientifiques et Darwin ?
Ah oui, vraiment, parce que dès qu'il a l'occasion, il envoie des spécimens, Darwin. Même aujourd'hui, il y a encore une énorme collection dans les archives du British Museum avec les prélèvements de Darwin. Et puis, petit à petit, il devient célèbre en Angleterre, mais pendant son voyage. Pendant son voyage, tous les scientifiques veulent des prélèvements, des spécimens de Darwin. Si bien qu'avant qu'il soit rentré, quoi, mais ça, c'est à vérifier. Hein, j'ai peut-être un trou de mémoire. Il avait été admis à la Société de géographie en tant que membre permanent, par exemple. Mais avant de rentrer, je ne sais plus, il a dû partir vers 21 ans. Il est rentré chez lui à 26 ans. Et puis, il était déjà un éminent scientifique en quelques années.
Il a beaucoup été aidé par un ornithologue, je sais plus, je crois que c'est Gould, mais je ne sais plus son prénom, et aussi un géologue qui l'ont beaucoup aidé à justement développer sa théorie. Il a mis beaucoup d'années justement à faire attention, à vérifier point par point que justement, c'était pas contre, mais que si on devait l'attaquer sur les créationnistes, en tout cas les fervents croyants, devaient l'attaquer sur sa théorie, il pouvait justement dire et montrer des exemples. Donc il a mis beaucoup de temps. Il y a eu plusieurs versions aussi de sa théorie et sa théorie de l'évolution, l'origine des espèces, son livre est sorti en 59. Donc voilà, il est sorti en 36. Donc voilà, ça fait un petit moment, quoi. Il a mis du temps, il a fait attention à tout ça. Et il demandait conseil. Et il a discuté aussi un peu avec Lamarck. Enfin voilà, il y avait des choses où il voulait être justement. Il savait qu'il allait être attendu sur ces points-là et qu'il voulait faire attention.
Ouais, dans la partie de son voyage, dans ce qu'on appelle actuellement l'Amérique du Sud, quoi, c'est-à-dire Brésil, Patagonie, Argentine, aussi, Darwin va se trouver confronté à l'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. Voilà, donc ça va être déjà pour des punitions d'esclaves, après avec des esclaves, et ça, c'est quelque chose qui est assez fort dans le livre et qui pour vous, vous a marqué, quoi.
Oui, c'est un des points les plus importants, peut-être, parce que en fait, Darwin est petit-fils, il faut que je fasse attention, d'anti-esclavagiste. C'est-à-dire qu'il avait une position pour un homme blanc de l'époque qui était assez rare. Son grand-père était contre l'esclavage, son père était contre l'esclavage, et Darwin lui-même, moi, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé intéressant cette facette qui n'était pas très connue de Darwin, c'est qu'il est totalement contre l'esclavage, quoi. Donc il arrive au Brésil, et le Brésil à cette époque-là, comme il dit, c'est le paradis des naturalistes, c'est-à-dire qu'il peut découvrir tous les jours des dizaines et des dizaines d'espèces. Il ressent une émotion terrible dans les forêts, comme ça, devant la beauté de ce monde. Il dit que c'est le paradis sur Terre. Et de l'autre côté, il est confronté au monde des esclaves, à la violence donc des colons. Et puis là, il dit, l'homme blanc, on fait l'enfer sur Terre, donc parce qu'il est quand même assez pétri de catholicisme, enfin de protestantisme d'ailleurs. Et donc, on a les deux mondes qui se côtoient, le paradis et l'enfer.
Oui, donc, et c'est quelque chose qui va profondément le marquer, quoi. Alors toi, Jérémy, pour dessiner ce genre de choses-là, est-ce que tu as eu quelque chose de particulier ou des difficultés, je ne sais pas, dessiner ce genre... Pour cette planche-là, on va dire quelques scènes. Il y a des planches où il y a quelques scènes un peu plus dures, un peu plus loin.
Oui, juste après, c'est un peu plus violent.
Donc, c'est plus violent, oui. Alors,
c'est là la difficulté. Alors, dans Audubon, on en parlait un petit peu aussi des esclaves, mais c'était un peu plus, on était un peu plus prudent en fait. On savait pas trop quand, comment le prendre, etc. Alors que là, avec Darwin, Fabien y a été direct. C'était un sujet important et dans son journal, Darwin en parle, donc on pouvait pas l'éviter. Et pour le dessiner, ouais, non, je voulais pas cacher. Alors Fabien m'a un peu donné de la doc aussi, justement la femme avec le masque dessus. Oui. Et c'était malheureusement des scènes qui c'était comme ça, donc je pouvais pas juste faire autre chose. Quoi.
Non, tu peux faire autre chose, non, mais sans tomber non plus dans quelque chose qui soit trop. Trop gore finalement, parce que je pense que c'est à vivre, ça devait être gore quand même, ce genre de choses, parce que
bah, je pense que c'était extrêmement violent, et donc on a essayé quand même de rester faut être pudique, mais faut aussi ne pas hésiter à montrer les choses, quoi. Donc il y a un juste milieu à trouver, mais ouais comme on dit, il faut quand même être cru à un moment, parce que si on cache ça sous le tapis, bah c'est contre-productif aussi.
Ouais, surtout que c'est une bande dessinée qui est destinée à des publics relativement larges, quoi. C'est pas
réservé. C'est une bande dessinée qu'on espère familiale. Enfin, moi,
c'est de l'aventure, hein. C'est une bande dessinée.
De l'aventure, et puis il y a des belles choses.
Donc voilà. Donc même cette histoire autour de l'esclavagisme et de la relation entre les blancs et les noirs va donner même lieu à une altercation entre Darwin et je sais quoi.
C'est le capitaine Fitzroy, son capitaine.
Fitzroy, ouais.
Voilà. Darwin était donc anti-esclavage. Il se battait bec et ongles pour que ce soit supprimé, et son capitaine, le capitaine Fitzroy, lui disait que c'était important, ça apportait la civilisation, enfin le discours habituel. Et donc il y a eu une grosse altercation entre les deux, pour lequel Darwin a failli se faire mettre, virer du bateau, quoi.
Ouais, débarquer.
Débarquer, voilà. Et puis finalement Fitzroy est revenu sur ses positions en réacceptant Darwin.
Mais l'anecdote est réelle.
Et l'anecdote est vraie.
Ouais. C'est pas un effet de récit.
Non, vous l'avez fait.
Hein.
Non, c'est vrai.
Il y a aussi un personnage important là qu'on trouve, c'est les trois Indiens, là, Fuega, Fuenja, la femme.
Alors attends, je vais retrouver. Il y a Fuega, il y a Jimmy Button. Et je ne sais plus le dernier. Voilà, j'ai un trou de mémoire, c'est honteux. C'est honteux.
Voilà. Alors,
c'est une belle histoire, moi, que je ne connaissais pas. Enfin, vraiment qui m'a fasciné. Alors on pouvait pas la mettre trop au cœur du récit parce que c'est un petit peu annexe, on va dire, mais moi je voulais vraiment en parler. C'est-à-dire que dans un premier voyage, le capitaine Fitzroy a pris des enfants en otage. Donc trois Indiens, enfin il y en avait quatre, mais il y en a un qui est mort en rentrant en Angleterre. Il en a pris trois en otage, donc Fuega, Jimmy Button et dis-moi, je sais plus, trop de mémoire. Bon, peu importe. Il les a ramenés en Angleterre pour les éduquer, pour que ça devienne des bons petits blancs protestants comme il fallait. Et puis, dans le deuxième voyage du Beagle, ils sont décidés de ramener ces Indiens en terre de feu pour qu'ils deviennent, en gros, qu'ils apprennent aux Indiens sauvages, entre guillemets,
à les coloniser,
puis à devenir de bons chrétiens.
Ouais.
Donc, il y a eu Fuega, parce qu'elle s'est appelée Basket, parce qu'elle a été changée contre un panier de basket. Et surtout Jimmy Button, qui est le plus connu de cette histoire, lui, il a été changé Button contre un bouton de nacre. Donc voilà la valeur d'un homme, on en parle. C'est que l'Indien, lui, a été échangé contre juste un petit bouton de culotte en nacre. Alors la morale de cette histoire, je la finis, même je sais pas, tu crois qu'il faut raconter? Ouais, on peut la raconter, elle est historique. Ouais, donc vous voyez, il y a les deux versions dans le dessin de bord là. La version indienne sauvage, entre guillemets, et puis la version civilisée, c'est qu'en les laissant faire leur travail de colonisation, et ben en fait, ils sont redevenus indiens, ils ont retrouvé leurs coutumes, ils ont totalement délaissé la mission dans laquelle ils étaient, et puis ils sont redevenus ce qu'ils étaient, en fait. Ils ont retrouvé leur propre nature, et ils sont... je pense qu'ils ont eu des enfants là-bas et ils ont oublié le petit épisode anglais qu'ils avaient vécu quand ils étaient jeunes, quoi.
Voilà, donc une belle histoire parce que ces personnages aussi apportent quelque chose au récit d'assez intéressant. Alors donc toi, Jérémy, tu as dû les dessiner, ces personnages, donc comment les as-tu stylisés par rapport à ce qu'on voit?
Justement, je me suis un,
voilà,
me suis un peu approché de des documents que j'avais, justement, un peu avec les gravures ou les dessins que le peintre avait fait. Et après, il y a aussi une part d'interprétation. J'essaye un peu d'imaginer comment ils auraient pu être. Enfin, voilà. Je ne me tiens pas forcément au rôle précis, au dessin que je vois. Enfin, voilà. J'essaye de m'amuser aussi le plus possible. Ne serait-ce que pour Darwin. Darwin, il est un peu blond. Je me suis basé sur une photo, enfin, pas une photo, mais une peinture de lui quand il était jeune. Enfin, il avait, je crois, sur la peinture, il avait un peu plus de 30 ans, alors que dans le voyage, là, voilà. Ça, et quand il voyage, il a 22 ans. Donc, j'essayais de, voilà, un peu blondiner, comme ça, un peu plus joyeux. Enfin, voilà, j'essaie de...
Oui, parce qu'il a l'air un peu sévère, là, quand même.
Oui, mais c'est marrant parce que au tout début, quand on m'a parlé de Darwin, quand Fabien m'a parlé de Darwin, il faut savoir que quand j'ai été voir Fabien pour Dubon, pour trouver un scénario, il m'avait déjà un peu glissé l'idée de Darwin. Et moi, j'avais dit non parce que moi, je ne connaissais pas trop Darwin, pas plus que ça. Et moi, je n'avais pas envie de dessiner la vie d'un savant barbu. Enfin, voilà, ça ne m'intéressait pas. Et puis au final, quand on a fait au Dubon, j'ai su comment Fabien amener les histoires et amener les personnalités. Et j'ai tout de suite su qu'on pouvait faire autre chose qu'un barbu pas intéressant, enfermé. Enfin, voilà. Donc, l'idée de faire un Darwin jeune, un peu...
Un génu ?
Un peu, ouais, un génu, tintinesque, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais où lui arrive un peu des choses, moi, ça m'a plu. Et, enfin, voilà, c'était quelque chose d'intéressant.
Donc, bon, on le voit bien dans la bande dessinée que vous avez pris du plaisir quand même à raconter cette histoire, quoi. Parce que je pense que toi, au niveau scénario, bon, là, tu nous mets une caricature de Darwin, ça, c'est ton côté un peu.
Ben oui, c'est la ce que quand la théorie de l'évolution est parue, les caricaturistes représentaient Darwin comme ça. Donc, à propos de l'homme qui descend du singe, donc il représentait Darwin en singe. C'est un peu l'image qu'on a plus ou moins tous de ce personnage quand on l'imagine. Alors qu'effectivement, nous, c'est la vie de celui-là qu'on raconte.
Ouais, ouais. Je vais revenir un peu aussi sur l'histoire de l'esclavagisme et du Brésil, parce que on peut peut-être, vu ce qui vient de se passer aux élections brésiliennes récemment, on peut se dire que quand même il y a une évolution, mais un peu négative, on pourrait le dire comme ça.
Bah oui, c'est ce que je me disais aussi l'autre jour quand l'extrême droite est donc passée au Brésil, ouais. Que le paradis des forêts est d'autrement plus menacé aujourd'hui.
Ouais.
Les Indiens aussi qui vivent là-bas sont extrêmement menacés. Et on a un petit peu un retour comme ça. Et pour ça que moi, effectivement, c'est l'histoire d'un homme du 19e siècle. Mais quelque part, j'essaye toujours de glisser, quand j'écris ces histoires du passé, de penser à l'état de la planète aujourd'hui. C'est aussi pour montrer la beauté du monde, montrer aussi ce qui la menace, quoi. Et donc de faire des BD écologistes comme ça, moi, je trouve que c'est mon rôle, en fait.
Ouais, ouais, mais votre rôle. Mais après, je vais revenir un petit peu, à faire une parenthèse sur Audubon, parce que Audubon était quelqu'un qui avait voyagé, du nord au sud des États-Unis, là, en longeant le Mississippi. Mais c'est quelqu'un qui, comme il voulait faire une nomenclature ornithologique des États-Unis d'Amérique, et c'est quelqu'un qui était naturaliste et qui était, on peut rappeler ça, un viandard maintenant. C'est lui, quand il commençait à chercher une espèce, il tuait 200 oiseaux, il en choisissait 3 pour les naturaliser, puis en faire des portraits avec la pose. Mais bon, voilà, il faisait ça avec tous les animaux. Donc il y avait un côté viandard excessif, quoi. Et ça, quelque chose dont tu parles.
Il disait que s'il ne tuait pas 100 oiseaux par jour, c'est qu'ils étaient rares.
Il y a un moment aussi, dans la BD, on le voit qu'il rentre dans une espèce d'arbre où il va choper 100 hirondelles.
Ouais.
Et puis, il estime qu'il y en a 11 000, donc ça va dans l'arbre, c'est pas très grave. Donc, et puis, c'est quelqu'un aussi qui était en pleine nature, quand même, Audubon, qui était un peu défricheur aussi, quoi, un peu comme Darwin. Plus défricheur scientifique, et Audubon, plus défricheur directement sur le terrain. Quoi. Donc, voilà. On peut faire un parallèle, quand même, entre les deux personnages. Quoi. Ils sont à peu près à 30 ans près, ils sont à peu près dans la même époque, ils explorent. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Et pour en revenir à Darwin, il va se retrouver confronté aussi un peu plus tard à la violence militaire contre les sauvages, quoi.
Ce qu'ils appellent eux les sauvages,
oui, ce qu'ils appellent les sauvages.
Les Indiens. Mais ouais, ça fait partie aussi des découvertes dans le voyage, c'est que eh ben, l'Indien, il découvre que l'Indien est chassé, que l'Indien est persécuté, en fait. Donc, bah attention, hein, Darwin, là-dessus, il n'est pas forcément non plus humanisme comme il a quand même les idées d'un homme du 19e siècle.
Ouais, donc
il pense que les hommes sont égaux les uns aux autres, ça par contre, il le dit, il l'écrit.
Ouais.
Il pense qu'on est tous égaux, mais que la civilisation blanche, entre guillemets, peut sauver quand même les Indiens de leur déchéance. Quoi. Il a ce côté-là quand même. Hein. Il pense que les hommes sont égaux physiquement. Mais pas de la civilisation, les civilisations ne se valent pas. Quoi.
Ouais, d'où le fait du capitaine Fitzroy qui civilise des Indiens pour essayer de leur faire civiliser aussi leur congénère. Quoi.
Bah, y a un peu de ça.
Ouais. Ouais, y a un peu de ça, ouais. Donc après, Darwin, ah, si, je voulais un petit peu ça. Tu peux remettre une grande image, là, celle où il y a l'eau et le dessous d'eau. Là.
Où il y a quoi ?
Tu sais, les planches où on voit le bateau et puis l'eau en dessous. Là.
Tu me diras.
Vas-y, continue. Voilà, c'est celle-là que je voulais. Donc, aussi dans votre récit, dans votre album, vous incluez régulièrement des pleines pages couleurs, quoi, qui essayent de donner, comment dire, une idée de un peu du monde dans lequel va partir Darwin. Parce que là, quand on voit Darwin, on voit le bateau déjà qui est petit et Darwin, on le voit plus sur le bateau. Et quand on voit ce qu'il y a en dessous, vous faites quand même le parallèle pour nous dire, ben voilà, il va partir en exploration sur quelque chose qui est immense finalement. C'est ce que vous voulez nous dire à travers ces images. Il y en aura plusieurs au niveau de l'album. Et alors, ces images, moi, je les trouve magnifiques parce que je ne sais pas si les fonds marins actuellement sont encore comme ça, surtout par là-bas, dans les Galapagos et tous ces endroits-là. On peut voir tout un tas d'animaux, comment dire, différents animaux, différentes espèces, dont certaines ont peut-être déjà disparu.
Ah ben vraiment, moi, c'était ce projet-là, c'était vraiment d'essayer d'écrire un livre solaire, entre guillemets, qui est comme moi, qui découvre la beauté du monde un peu naïvement, un peu, je vais pas dire bêtement, mais voilà, essayer de montrer un monde magnifique. Et après, se sont griffées ces histoires d'Indiens qu'on assassine, d'esclaves aussi. Donc le livre, le projet, c'est petit à petit nuancé et est devenu quelque chose de plus complexe. Mais le fond, montrer que la beauté de ce monde-là, je pense qu'il reste tout le long de l'album.
Ouais. Oui, c'est vos désirs. Non, on voyait bien, même avec Audubon, de montrer ces paysages. Voilà. Donc, à la fin, on va arriver vers la fin du livre où il va faire, aller en Océanie, puis le retour en Angleterre. Là, ça va assez vite, quoi. Parce que l'Océanie, ça va être quelque chose de plus paisible.
Oui, vers la fin de son voyage dans les îles, un peu l'Océanie, tout ça, il ne fait pas des grandes découvertes et pour nous aussi, pour raconter tout ça, c'était pas très intéressant dans le sens où il se passait pas énormément de choses s'il avait fallu qu'on fasse d'autres pages encore, ça aurait été un peu redondant et que voilà,
on peut revenir sur le corail
de l'Europe. Il est en Amérique du Sud, après il est en Océanie, en Australie, etc. Donc c'était pas intéressant. Et en plus de ça,
les planchers,
il aurait fallu faire au moins
d'insectes, là, voilà.
250 pages, 300 pages, et pour moi c'était pas possible. Donc,
pas même pour moi.
Non, ouais, c'est compliqué, sachant que quand même pour faire une page, je sais pas, un album comme ça, il faut à peu près 18 mois.
Oui, un an et demi.
Ouais. Ouais, quand même pour faire ce type-là. Donc là, on a choisi aussi une pleine page qu'il y avait, mais là, qui illustre différemment. Tout à l'heure, on parlait de la beauté du monde, de la beauté des sous-marins. Là, ça illustre, comment dire, ce que pouvait récolter Darwin, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est les
planches.
Les planches qu'il envoie pendant son voyage. Dès qu'ils ont une escale, eh ben, ils envoient des prélèvements comme ça qu'on peut toujours voir au British Museum, je pense. Hein. Ouais. Je ne suis pas allé. Hein, mais
bon. Oui, ça doit pouvoir être visible. C'est, bon, on en voit dans les musées d'histoire naturelle, sur d'autres. Mais alors, moi, ce qui est aussi remarquable sur un plan dessin, c'est quand même très minutieux. Hein. Parce que quand on voit tout ce qu'il y a, les différentes tailles, les gros, je ne sais pas, c'est facile, mais quand on voit les toutes petites à droite, tu as respecté les échelles complètement
Non, j'imagine que de toute façon, il y a un peu de toutes les tailles dans les coléoptères. Et puis après, voilà, j'aime bien un peu ce genre de dessin où je me répète. Enfin, voilà, j'essaye un peu de... C'est un peu ma collection à moi aussi, en quelque sorte. Mais j'aime bien. Il y a une autre page après dans l'album sur les coquillages, justement.
Oui, il y en a une autre.
Ouais, qui est en parallèle un peu avec celle-là. Mais non, moi, ça me plaît bien un peu de dessiner ce genre de page. Et puis, ouais, non, c'est, enfin voilà, je trouve ça.
Ben, moi, mon rôle aussi, c'est de fournir à Jérémy les pages que je sais qu'il aime dessiner et je sais qu'il dessinera bien. Donc, il y a des moments où on pense à intégrer ce genre de pages ou de dessins. C'est comme les grands paysages, c'est comme les grandes montagnes. Je sais qu'il va s'éclater à dessiner une montagne avec les nuages, avec les glaciers. Et donc, on pense à ça. Par exemple, Jérémy, une fois, je lui avais fait faire une scène où deux personnages parlaient dans une pièce. Il a cru devenir fou parce qu'il n'y avait rien à dessiner. Là.
C'est vrai. Et là, on a un nouveau projet et là, il a juste eu l'idée de faire 400 personnes qui portent un cercueil sur une montagne. Donc voilà, j'aime Fabien pour ça.
Vu en gros plan
ouais.
De loin.
De loin, ouais. Genre des scènes de bataille ou je ne sais pas.
Tu passes au... Ouais. Bah, on va conclure là-dessus. Hein. Ouais. On va faire un petit commentaire là-dessus puis après on va passer aux questions.
Et là, tu veux?
Ouais, moi, je voulais, c'est là le corail de Darwin. Là, je voudrais que tu me le commentes un petit peu. Parce que c'est un peu, il résume un peu la pensée de Darwin, quoi.
Oui, voilà, bah, c'est un peu la théorie de l'arbre de vie aussi.
Ouais, ouais, ça...
C'est-à-dire que moi, on a parlé de l'Indienne Fuegia tout à l'heure. On n'a pas beaucoup de traces de cette femme-là. On sait qu'elle a été donc enlevée enfant, élevée chez les Anglais, ramenée en terre de feu pour coloniser, entre guillemets, et puis qu'elle est redevenue tout simplement une Indienne ordinaire et qu'on a perdu un peu dans les limbes de l'histoire. Et moi, je m'en sers de ce personnage pour raconter que peut-être si elle s'était mariée avec un Anglais, sa vie aurait été différente. Peut-être que si elle était restée en Angleterre, sa vie aurait été différente. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu de descendance. Peut-être qu'elle en a eu là-bas. On ne sait pas. Et donc, la théorie de Darwin, c'est ça aussi. C'est de montrer qu'on est tous issus de dizaines, de milliers de chemins comme ça qui ont été empruntés à travers le temps. Et lui, il résume ça par la théorie du corail de Darwin, qui est plus... parce qu'il y a aussi la théorie de l'arbre de vie, où on a un arbre et on remonte les branches. C'est sur nous, on est sur la branche des hominidés, par exemple. Mais la théorie du corail, je la trouve plus pertinente, c'est-à-dire qu'on a vraiment... un cœur qu'on va imaginer être les cellules de base, on va dire. Et puis, petit à petit, tous les chemins font que, eh ben, on va arriver à l'histoire de cette femme-là, de cette Indienne, dont on a perdu la trace. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Est-ce qu'elle a eu une descendance? Je ne sais pas. Elle a ouvert une autre branche, comme ça, de ce corail de vie. Et puis, moi, je trouvais ça assez poétique de parler de la théorie de Darwin, comme ça, à travers cette femme-là.
OK. Ben, merci. Très bien. Mais on va conclure. On va conclure notre petite discussion là-dessus. Si certaines personnes avaient des questions,
en fait, je parlais avec biodiversité avec Darwin. En fait, si elle est, si aujourd'hui, avec surtout le cas du Brésil, si Bolsonaro, en fait, il va oser détruire la forêt. La forêt vierge qu'est l'Amazonie, en fait, c'est que le paradis imaginé, le paradis que Darwin a vu, la forêt amazonienne, si elle disparaît, ça veut dire que les générations futures ne pourront pas la voir à cause de Bolsonaro, en fait. Il y aura plein d'espèces qui auront disparu, en fait, dans les limbes de l'oubli, en fait.
Ça a commencé avant Bolsonaro, de toute façon. Hein.
Il va ne faire qu'accélérer quelque chose qui est en cours, voilà. Déjà. Parce que ce genre de phénomène, on le voit au Brésil, mais on le voit aussi dans les forêts indonésiennes avec l'huile de palme, les palmiers. Si on les survole, les forêts indonésiennes, on se rend compte que les lieux où peuvent vivre les animaux sauvages, en orang-outans, éléphants et tout ça, se rétrécissent énormément, quoi.
Ouais, mais en fait, il faudrait surtout qu'il faut changer la tendance. En fait, il faut changer la tendance, surtout pour prévenir les populations, en fait, pour dire que ces milieux sont très importants et qu'il faut que les nouvelles générations puissent voir la beauté de tels milieux. Mais ouais, je crois que le pire fait, c'est surtout en Indonésie, parce que l'huile de palme, en fait, c'est surtout les industries, Monsanto, compagnie, qui menacent ces gens de forêt. En fait, c'est complètement fou.
Non, je suis d'accord avec vous. Hein.
On en parle dans Haut du Bon.
Hein. Ouais, voilà, ils en parlent dans Haut du Bon. Ouais. Moi, je dis à mon petit-fils de ne pas manger de Nutella. Voilà. D'autres questions? Oui, il y en a une là-bas. Je vois monsieur qui levait la main là-bas.
Bonjour. Vous avez parlé de votre prochain projet.
Est-ce que vous voulez pas spoiler ou est-ce que vous voulez bien dire sur quoi c'est ?
Est-ce que tu veux le divulgâcher ?
Le 11 bas, voilà, parce que moi, ça fait quand je dédicace Audubon ou Darwin, je parle déjà du troisième projet. Mais Fabien me tape dessus un peu parce qu'il ne veut pas en parler. Mais moi, je vais le dire aujourd'hui.
Je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas signé, il n'y a rien de dessiné. Il y a juste une scène où il y a 400 personnes qui portent un cercueil dans une montagne.
Voilà, ben, maintenant, jeu de piste.
Je vais le dire. En fait, ce n'est pas une trilogie sur les scientifiques ou les naturalistes. C'est une trilogie sur le voyage et sur les aventuriers, enfin sur des gens qui ont vu des choses... voilà, qui ont parcouru le monde. Et en fait, on va juste raconter l'histoire de... Enfin, on va juste raconter... on va parler de Robert Louis Stevenson, en fait. Il a beaucoup voyagé aussi. Enfin, il a fait pas mal de voyages. Et en fait, Fabien veut raconter le processus d'écriture de Stevenson et en même temps de ses voyages, de tout ce qu'il a alimenté, justement, tout ça. Et enfin, voilà. Donc voilà, je l'ai dit.
Voilà, donc il est divulgaché.
Ce sera dans 2 ans, voire 3 ans, parce que moi je suis sur un autre projet en ce moment qui n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, on va encore
Et toi,
prendre un peu de temps avant de travailler.
Toi, Fabien, tu as fait un livre qui s'appelle Michael ou l'homme des bois aussi, qui correspond à ce que tu aimes dire au niveau de la nature, quoi.
Bah, qui est un petit peu. Là, c'est plus sur un. Là, c'est un pur délire. Hein. C'est un truc où il y a des fourmis géantes et des loutres géantes. Mais ouais, c'est un projet onirique, mais sur le thème de l'environnement, sur la forêt, sur les trucs comme ça. Ouais, mais Michael aux éditions 6 pieds sous terre. Exact.
Bon, il n'y a plus rien. Peut-être quand même signaler que des auteurs de science-fiction se sont quand même emparés de Darwin. Un qui s'appelle Greg Bear et qui a fait L'échelle de Darwin, pour ceux qui le connaissent. Et il y a quelque chose aussi dans la. Pratchett aussi, dans la partie scientifique du disque monde, il y a quelque chose qui s'appelle L'horloge de Darwin, si vous voulez. Donc, on pensait que. Comment dire. Dire que Darwin pouvait être le précurseur de la science-fiction, mais c'est impossible parce qu'au moment où Darwin a fait sa théorie des espèces, le terme de science-fiction et la science-fiction n'étaient pas encore théorisés, quoi. Voilà, donc... voilà. Ben, oui ?
Bonjour. Moi, je voulais vous remercier d'avoir fait une bande dessinée que je vais forcément acheter sur Darwin, parce que Darwin fonde ma pensée philosophique et scientifique, fonde ma pensée humaniste. Le fait qu'il ait mis en place la théorie de l'évolution et tout ce qui est afférent à la théorie de l'évolution, y compris sa réponse plus tard à ce que les gens appelaient le darwinisme social, le spencerisme, quand il a répondu dans la descendance de l'affiliation de l'homme. Toute la pensée philosophique, scientifique et donc quelque part philosophique de Darwin fonde ma propre pensée. Donc je vous remercie d'avoir fait ce travail.
Ah ben, merci, c'est gentil. J'avoue que quand j'ai commencé à bosser sur Darwin, c'est parce que le personnage, ses théories et puis le côté, comme on a dit tout à l'heure, anti-esclavagisme, etc. Il y avait aussi une pensée humanisme chez cet homme-là, m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, allons-y, on va raconter un truc. Puis après, en fouillant un peu, j'avoue que j'ai eu une énorme angoisse parce que je me suis rendu compte de la masse de trucs qui existaient autour de Darwin, le nombre de livres scientifiques, etc. Il a des fan clubs incroyables. Et donc, nous, on apporte vraiment notre petite minuscule pièce. J'espère qu'elle est bien, j'espère qu'elle est intéressante à l'édifice autour de Darwin. Mais parce qu'il n'y avait pas énormément de choses en bande dessinée sur cette période-là. Et puis, bah, je suis content que ça ait touché des gens, quoi, voilà.
Bon, eh ben, écoutez,
merci à vous.
Il y a d'autres questions ? Non, mais on va conclure. Hein. Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup. Hein.